François Weekend.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Il est 18h33, voici votre rendez-vous du week-end, les grandes voix d'Europe 1 de ce dimanche 4 avril en débat jusqu'à 19h. Et avec nous ce soir, Aurélie Herbemont, chef adjointe du service politique d'Europe 1. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir.
Laetitia Krupa, journaliste politique. Bonsoir Laetitia.
Bonsoir.
Et Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bienvenue. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Nous pouvons avoir un candidat commun à l'automne. Qui dit cela? Eh bien c'est Yannick Jadot, à un an de l'élection présidentielle. Sa requête est-elle un doux rêve et pense-t-il pouvoir être à la tête d'un tel rassemblement? On va parler de l'état de la gauche au sens large ce soir. Gérald Darmanin demande à la suite du reportage d'M6 sur les dîners clandestins la vérification des faits au préfet de police de Paris. Y avait-il des ministres dans le lot? Eh bien, on va vous faire écouter cet extrait d'M6 et vous réagirez parce que la rumeur alimente aussi parfois la rumeur. Et puis vos lus, vus et entendus, on y vient dans le cadre de ce débat.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
On va commencer par ce reportage diffusé sur M6, très largement relayé par les réseaux sociaux, vu près de 2 millions de fois depuis quelques heures. Petit extrait et vous réagissez, Laetitia Krupa.
Des rassemblements quotidiens ont lieu midi et soir. Comme cette fête payante organisée hier dans un lieu privé de la capitale, 220 euros la soirée, caviar et champagne. Sur ces images que nous nous sommes procurées, une quarantaine de convives, sans masque, certains se font la bise. Nous avons contacté l'organisateur de ce dîner illégal. Ce collectionneur renommé se défend et dénonce une pratique généralisée.
J'ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants, qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestins, avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. On est encore en démocratie, on fait ce qu'on veut.
Alors bon, c'est pas tout à fait le fonctionnement de la démocratie telle qu'on l'entend, Laetitia Krupa, mais votre réaction à ces propos édifiants.
Bah écoutez, ça revient toujours à la même question, l'impunité, soi-disant, des élites, parce que ces personnes qui sont visées dans le reportage d'M6 peuvent se payer un dîner à partir de 200 jusqu'à 490 euros, une soirée privée avec un droit d'entrée de 220 euros. Donc c'est la première couche, on va dire, du gâteau. Mais la deuxième est tout aussi savoureuse, puisque de façon anonyme, cet organisateur qui a été identifié, on va pas le citer ici, puisqu'il a nié en bloc, cet organisateur nous dit qu'il croise régulièrement des ministres dans les restaurants clandestins. Et là, Wendy, il faut vraiment, à mon avis, s'attarder sur ce point-là. Alors, d'une, la délation, on le sait sur les réseaux sociaux, et la chasse aux sorcières, un peu facile, à partir d'un témoignage anonyme, il faut s'en méfier, on le sait, on le répète souvent dans notre émission. Mais il y a quand même le sujet de l'exemplarité des ministres et de la hauteur de la punition, si les faits sont avérés, puisque sur notre antenne, Marlène Schiappa, interrogée ce matin, affirmait que si effectivement les faits étaient prouvés, les ministres devraient payer des amendes.
Et démissionner, enfin, de l'ajouter.
Oui, parce que sinon 135 euros, quand on sait que c'était 200 euros le ticket d'entrée, c'est un peu faible. En tout cas, il est vraiment urgent d'avoir le fin mot sur cette histoire d'un point de vue politique, parce que nous ne cessons de le dire, nous sommes dans un climat de défiance qui ne cesse de se creuser. Et ce genre de rumeurs sur des ministres, puisque ce n'est pas prouvé, creuse ce sentiment de défiance. Juste pour vous dire, dans le journal Elle du 19 mars, dans un article sur le blues des politiques, un politique confiait: on ne peut pas aller au restaurant, voir ses amis comme tout le monde, et on ne s'autorise aucun écart. Comme ministre, on ne le fait pas, soit parce qu'on est responsable, soit parce qu'on ne veut pas que ça se sache. Et c'est bien la moindre des choses, l'exemplarité. Donc, évidemment, les restaurants clandestins existent, mais si des élus, si des responsables politiques y prennent part, il faut absolument qu'il y ait sanction.
Oui, alors il faut être bien de rappeler plusieurs choses, la délation qui existe, la défiance des politiques, mais la rumeur, Aurélie Herbemont. Alors on a ce hashtag qui circule en masse depuis tout à l'heure, le hashtag « on veut des noms ». Alors est-ce que les noms vont être jetés en pâture? Et seulement, est-ce qu'ils existent? C'est bien la question.
C'est toute la question, parce qu'effectivement on est sur une rumeur, on est sur un homme qui visiblement fait des soirées, ça pour le coup il ne le nie pas, de faire des soirées très chères avec des gens, sauf que dit oui cette semaine, 2-3 restaurants, alors déjà 2-3 dans une semaine, on doit savoir à peu près combien de fois par semaine on va au restaurant, surtout c'est un restaurant clandestin, un certain nombre de ministres, c'est combien?
Est-ce qu'ils sont dans l'exercice? Est-ce que ce sont d'anciens ministres?
Franchement, je suis assez gênée avec cette affaire, parce que c'est de la rumeur, donc forcément, évidemment, sur les réseaux sociaux, ça part en torche, mais si on est honnête, Cette rumeur de ministres qui iraient dans des restaurants clandestins le soir, elle circule depuis le mois de décembre. Ah. Et certains nous disent, oui, il y a des paparazzi qui les cherchent. Moi, franchement, alors je suis peut-être naïve, mais si depuis 4 mois, il y a des ministres qui s'amusaient à aller dans des restaurants clandestins le soir avec des paparazzi à leur
place, de boulot, hein.
A priori, on aurait peut-être des noms déjà et des photos. Moi, c'est ça qui me met extrêmement mal à l'aise. Je ne dis pas que c'est impossible dans l'absolu. On a vu que parfois, des choses pouvaient arriver, même si on se dit que ça n'est pas possible. Mais vraiment, je pense qu'il faut rester extrêmement prudent. Parce que pour l'instant, c'est de la rumeur et de la calomnie et qui jette l'opprobre sur les membres du gouvernement qui, c'est vrai que si quelqu'un s'amusait à faire ça, j'espère qu'au moment de payer l'addition, il avait préparé sa lettre de démission.
Ah,
parce qu'il y aurait un côté
totalement
surréaliste.
Mais Aurélie, ça vaut aussi pour les députés, parce que là, on focalise sur les ministres, puisque cet anonyme nous dit effectivement, j'ai vu des ministres, mais enfin, il y a des députés, il y a des responsables, il y a des élus locaux. En fait, il faut que les politiques, dans l'ensemble, soient irréprochables, puisque sinon, encore une fois, vous le savez bien, l'impunité
défiance.
Y compris les journalistes, un nom de preuve. Voilà. Quoi que ce soit, il faut raison garder.
Oui, voilà, mais y compris les journalistes, mettons-nous aussi dans l'eau, il faut être irréprochable.
Moi, je suis plutôt sur la ligne d'Aurélie Herbemont. C'est vrai que pour l'instant, le témoignage est relativement fragile, les noms ne sortent pas, mais bien sûr, et là je rejoins Laetitia Krupa, on est dans un momentum particulier d'épuisement des Français, de défiance jamais vue encore. Ce matin, dans le journal du dimanche, on a sorti notre enquête quasi hebdomadaire sur la confiance à l'égard du gouvernement sur la crise sanitaire, on est à un niveau extrêmement bas. Donc toute cette affaire, que ce soit une rumeur ou que ce soit avéré, c'est absolument dévastateur. C'est quand on interroge les Français sur ce qu'ils attendent des responsables politiques et disons plus largement des élites. Ils attendent des résultats et ils attendent de l'exemplarité. Et la fameuse antienne « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je sais ». Le traumatisme, Wendy Cahuzac, n'est pas si éloigné que ça. Le ministre du budget, des impôts qui fraudait le fisc. Et tout ça dans un contexte où il y a une vraie tension sur l'acceptabilité de toutes ces mesures de restriction. Les Français déclarent les accepter et les respecter. Mais quand on les interroge pour dire « et d'après vous les autres Français ?», il y a 25 points d'écart entre son acceptation et l'acceptation de son voisin. C'est une affaire qui tombe mal. Et c'est vrai que si c'était avéré, on n'a aucune preuve, on n'est pas dans un tribunal, on n'est pas des inquisiteurs.
Non, mais c'est une affaire prise au sérieux, y compris par Gérald Darmanin qui réagit.
Tout à fait. Mais s'il y a même des députés, même un petit élu local, ce sera très grave.
Oui, Gérald Darmanin.
Exactement, parce que je vous rappelle quand même qu'on devait moraliser la vie publique à l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée.
Mais sous Hollande aussi.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette promesse. Hein ? Bon, bah, elle est loin cette promesse.
Eh bien voilà, bon, affaire à suivre, en tout cas ça fait le buzz, ou pas, absolument, mais vous avez raison de le dire. En tout cas, il y a cette demande de vérification des faits au préfet de police de Paris et je pense que le ministre de l'Intérieur ne manquera pas de nous en informer.
Wendy Bouchard.
Il est 18h41
avec les grandes voix du soir, Aurélie Herbemont d'Europe 1, Laetitia Krupa et Frédéric Dabi de l'IFOP. Vous étiez en studio, vous Frédéric Dabi, mais vous avez entendu... J'imagine tous les trois les propos à l'instant du président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, Jean-Luc Romero, avec ce débat, ce nouveau débat sur la fin de vie, sujet structurant et sur lequel, pour le coup, les Français sont majoritairement, je ne vais pas dire unanimement d'accord, mais il faut une nouvelle loi pour encadrer ce choix libre de fin de vie.
Tout à fait, Wendy. Vous parlez d'un débat, mais dans l'opinion publique, et je pèse mes mots, il n'y a pas de débat. L'IFOP, depuis une vingtaine d'années, depuis la terrible affaire Vincent Humbert, ça devait être en 2000 ou en 2001, a fait une multitude d'enquêtes pour des associations pro-nouvelle loi, celle de Jean-Luc Romero de la DMD. Il citait La Croix, un journal qui est plutôt un peu plus conservateur, pour toutes sortes d'associations, avec toutes sortes de méthodologies, notamment une conférence de citoyens pour le Comité national d'éthique. Et que voit-on ? On voit une opinion publique à 90-95%, sans clivage de sexe, d'âge, sans clivage partisan. Et donc, dans ce cadre-là, la pétition, la tribune dans le journal du dimanche, où on retrouve des députés de tout bord, colle avec l'opinion publique, veut que la loi soit changée, ne veulent plus cette agonie terrible, ne veulent plus entendre tous ces cas. Jean-Luc Romero a parlé d'Anbert, récemment, il y a encore eu une autre affaire. Toutes ces affaires qui scandent et qui inquiètent les Français. Et c'est vrai que la question de la fin de vie, c'est l'enjeu sur lequel je vois le plus grand décalage, et il est vraiment béant, entre ce que souhaitent massivement les Français et ce que propose le législateur. Et il y a toute une série de stratégies dilatoires. Quand on dit qu'en ce moment, la priorité, c'est le Covid, quand ce député de l'REM parle de d'abord développer les soins palliatifs.
Rien n'est incompatible.
Voilà. On a vraiment, sur ce sujet, une très grande hypocrisie. Je rappelle que le changer de loi, c'était au programme de François Hollande en 2012.
Absolument, c'est une loi, Claes Leonetti, qui a 5 ans, Aurélie Herbemont. Alors certains disent déjà, connaissons mieux la loi, appliquons-la, et notamment Thomas Meynier que je citais. Alors, et quand tout d'un coup on a une unanimité quasiment politique, rien ne va plus parce qu'on a une poignée de députés qui déposent des milliers d'amendements pour bloquer le débat. Alors, pourquoi on ne peut pas examiner ces 3000 amendements au fond ?
Alors, on va faire un petit point extrêmement rapide sur la procédure parlementaire. Oui. Ça va passer jeudi, donc dans le cadre d'une niche. Alors, la niche parlementaire, c'est quoi ? C'est l'ordre du jour pendant toute la journée et réservé à un groupe. Ici, en l'occurrence, ce sera à l'initiative d'un groupe d'opposition, Liberté et Territoire, avec Olivier Falorni qui porte ce texte de loi.
Oui.
Sauf que c'est une course contre la montre. Si à minuit, le texte n'est pas voté, eh bien, c'est terminé. Donc forcément, avec 3000 amendements, on se doute que ça va être très compliqué d'examiner oui. une loi avec 3000 amendements en une seule journée.
C'est
quasiment impossible. Oui. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous parliez d'unanimité, alors dans l'opinion, quasi-unanimité, la classe politique, c'est très compliqué. Mais, parce qu'en fait, le clivage quand même existe encore, mais il est finalement interne à chaque famille politique.
Voilà,
vous avez à droite, par exemple, Marine Brunier, qui est une députée de Nice, qui est LR, qui elle-même a déposé avec une vingtaine d'autres députés de droite une proposition de loi qui va dans le même sens que celle qui va être débattue jeudi. Mais vous avez encore toute une partie des Républicains, par exemple, qui disent qu'il faut déjà utiliser à plein la loi Claeys-Leonetti de 2016, qui prévoit la sédation profonde et qui... Pour le coup, c'est l'argumentaire du gouvernement, elle n'est pas encore pleinement appliquée. Par exemple, vous avez encore aujourd'hui, actuellement, moins de 20% des plus de 50 ans qui ont rédigé leur directive anticipée.
Ah
alors
oui.
que cette loi permet déjà, à partir de 50 ans, de dire un petit peu ce qu'on souhaite pour la fin de vie.
Il n'y a jamais eu de campagne de communication des pouvoirs publics sur cette loi. Je me permets de vous interrompre,
c'est
ça le problème aussi. Il y a une véritable hypocrisie de dire que cette loi, sur un sujet mais qui concerne, qui intéresse tellement les Français. Quand nous avons fait une conférence citoyenne, on a réuni 30 personnes pendant 4 week-ends qui ont refusé d'être payées, d'être dédommagées. On est vraiment sur une hypocrisie puisque cette loi n'a jamais fait l'objet d'une sorte d'exposition, d'une sorte de vulgarisation, alors que c'est le sujet qui concerne par définition tout le monde.
Et c'est vrai que le gouvernement n'est pas très à l'aise avec ce débat qui arrive à l'Assemblée, puisque Frédéric Dabil disait justement c'était une promesse de François Hollande, mais ça n'a jamais été une promesse d'Emmanuel Macron de légiférer à nouveau sur la fin de vie. Emmanuel Macron, alors pendant la campagne, avait dit je souhaiterais choisir ma fin de vie, mais il ne s'est jamais engagé sur un nouveau texte. Et là, il y a une dizaine de jours, un premier texte, c'est compliqué parce qu'entre les différentes initiatives parlementaires, un texte socialiste avait été examiné au Sénat, n'a pas pu aller au bout là encore parce que les sénateurs LR avaient supprimer l'article fondateur du texte. Et le gouvernement, Olivier Véran, avait dit « Nous ne sommes pas favorables en ce moment parce que le gouvernement, certains se disent, les anti-euthanasies quand même existent encore dans notre pays et disent au moment où on a des tensions sur les hôpitaux, il ne faudrait pas qu'on nous accuse de vouloir libérer des lits. »
Donc,
la position du gouvernement, ce n'est pas le moment. Et puis, je reviens d'un mot sur cette affaire de niche. Certains vous disent, même s'ils sont pour, que franchement, ce genre de débat mérite plus que
une journée,
une après-midi à l'Assemblée nationale.
Même s'il y a eu un travail de fond
même
en commission
si
des affaires sociales.
Même si on découvre le sujet aujourd'hui, et qu'il y a déjà eu des...
Mais c'est intéressant de souligner la position, pardon Laetitia, je vous donne la parole, la position de l'exécutif qui n'est pas très claire. Hein, Jean-Luc Romero ne pouvait pas nous la résumer. Il a été reçu, nous le disait-il, par Emmanuel Macron. Mais quelle est sa conviction profonde, son intime conviction compliquée, hein, Laetitia Crepa?
Ben je trouve qu'en fait la position d'Olivier Véran que Aurélie vient de rappeler ou vient en tout cas de nous dévoiler, elle manque de courage. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'ose pas exposer ce débat au grand public, encore une fois, qui est plébiscité. Vous avez raison Frédéric, 90-95% des gens, parce qu'on a peur d'être taxé de Covid, voilà, d'être obsédé par le Covid et de vouloir des limes. Enfin,
oui,
c'est n'importe
mais
quoi.
Mais avant Covid, il y a pas le Covid. Ouais.
Non, mais qu'est-ce qui pose problème dans cette loi, Wendy? Moi, je vais vous le dire, puisque, en fait, il y a une certaine hypocrisie de la part des politiques qui dit, oui, on ne connaît pas vraiment cette loi Claes Leonetti, il faudrait vraiment l'appliquer, et puis, ça suffirait. Non, ce n'est pas vrai, parce que il faut que le pronostic vital soit engagé à court terme pour pouvoir bénéficier de la sédation profonde. À court terme, c'est dans la loi quelques heures ou quelques jours. Et comment interpréter ce court terme? Ce sont encore une fois les médecins qui interprète ce terme. C'est très compliqué. Écoutez Françoise Hardy qui demande, elle, à avoir le droit à l'euthanasie alors que peut-être qu'elle a plusieurs semaines à vivre. Mais enfin, c'est quand même le droit fondamental de l'individu de pouvoir décider de sa vie et de sa fin de vie. Et je trouve que Jean-Luc Romero, que vous aviez là à l'instant à vos côtés, c'est très intéressant ce qu'il dit parce que le contexte du Covid creuse aussi cette question de la toute-puissance des médias, des médecins qui est rarement remise en cause dans les médias. La toute-puissance des médecins, on la voit là dans les Covid, puisqu'ils sont surpuissants, en tout cas leur voix est très entendue depuis un an, mais encore une fois, ce sont eux qui vont décider et interpréter le pronostic vital, ça ne va pas.
Mais qui vont quand même interroger aussi l'idée qui est dans le texte de l'impasse thérapeutique. Voilà pourquoi il faut un encadrement, il faut des garanties.
Je crois que c'était très bien présenté par Jean-Luc Romero et dans le journal du dimanche, c'est également bien dit. C'est vrai que ce qui est terrible avec la loi actuelle, je répète ce qu'a dit Laetitia Krupa, si le pronostic vital est engagé sur quelques jours ou quelques semaines. Mais justement, il y a énormément de maladies. On citait le cas d'Anne-Bert, que quand on est atteint de la maladie de Charcot, on a une espérance de vie de 1 à 3 ans. Donc sur le court terme, sur le court terme très court, le pronostic vital n'est pas engagé. Mais quelle souffrance cette maladie. Ah, et c'est vrai que c'est une loi de liberté pour que chacun puisse choisir sa mort. Et ce que vous disiez tout à l'heure, Aurélie, quand vous disiez « oui, c'est un débat qui mérite plus de temps, du sérieux », c'est exactement ce que disaient dans les années 70 les personnes qui voulaient maintenir la peine de mort en France, faisant un grand débat. Ce qu'a dit Richard Ferrand il y a quelques semaines, il faut le citer comme, je dirais, réflexion, pardon de le dire, hypocrite. Il a dit « consultons les autorités religieuses sur la question et demandons aux Français leur avis ». Voilà, no comment.
Merci. En tout cas, voilà, c'est un sujet sur lequel nous reviendrons, crucial et qui interpelle évidemment chacun d'entre nous. Aurélie Herbemont, Laetitia Krupa, Frédéric Dabi, on va se retrouver dans un instant. On va parler de l'initiative de Yannick Jadot à un an de la présidentielle. Il veut un candidat commun à l'automne. A tout de suite.
Wendy Bouchard, les grandes voix.
Les grandes voix, on débat ce dimanche jusqu'à 19h avec nous Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1, Laetitia Krupa, journaliste politique, et pour l'IFOP, le directeur général adjoint Frédéric Dabi. Et peut-être est-ce plutôt une utopie de Yannick Jadot de retenir un candidat commun à l'automne pour la gauche avant l'élection présidentielle. Le député européen a appelé en début de semaine la gauche et les écologistes à se réunir d'ici 15 jours. Il nous en reparle dans le journal du dimanche. Alors pour discuter, oui, Aurélie Herbemont, mais une entente sera-t-elle possible? Parce que c'est bien le sujet. On peut discuter une heure courtoisement avec Jean-Luc Mélenchon, toujours est-il qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire ensuite.
Toujours est-il que l'idée à la fin, ce serait d'avoir un seul candidat donc qui représenterait à la fois les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes. Bon, Yannick Jadot fait une démarche qui paraît à peu près lucide et raisonnable, on va dire, parce que Frédéric Dabi nous dira sans doute quels sont les chiffres plus précisément que moi. Mais là, aujourd'hui, vous avez un paysage pour la présidentielle. Vous avez en gros Jean-Luc Mélenchon qui est à 10%. Yannick Jadot qui est autour de 9, Anne Hidalgo qui est autour de 8.
Oui.
Bon, eh bien, aucun des trois n'est en capacité de pouvoir ne serait-ce que rêver d'être au second tour de la présidentielle. Donc Yannick Jadot se dit, c'est vrai que si on reste comme ça, c'est pas que ce sera une élection pour rien, parce que c'est jamais une élection pour rien, mais pour la gauche, partir avec trois candidats différents, voire quatre, si Fabien Roussel pour le Parti communiste est candidat aussi, c'est l'assurance d'avoir... Merci. Aucune perspective pour la gauche de remporter l'élection. Sauf que Yannick Jadot veut mettre tout le monde autour de la table. Alors ça, déjà, c'est un grand pas, ceci dit, pour la gauche, de mettre tout le monde autour de la table. Mais après, il faut se mettre d'accord sur un programme. Donc déjà, ce n'est pas forcément facile entre des socialistes tendance à Anne Hidalgo et des insoumis.
Oui.
Et après, surtout, il faut décider qui est le candidat. Parce que le problème d'une présidentielle, c'est qu'il en faut un, il faut un nom. Et il y a quand même souvent cette tentation, à gauche comme ailleurs, Le rassemblement, c'est bien, mais surtout si c'est derrière moi.
Bah, que disait Adrien Quatennens tout à l'heure pour la France Insoumise.
Ben, Adrien Quatennens, effectivement, dit que c'est Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui le mieux placé.
Voilà.
Donc, quand Adrien Quatennens dit ça, il sous-entend qu'il faudrait que tout le monde se rallie au panacheur rouge de Jean-Luc Mélenchon.
Non, mais honnêtement, Aurélie, je sais votre honnêteté, mais vous pensez vraiment que Jean-Luc Mélenchon a un centième de doute dans ce qu'il va dire à Yannick Jadot? Vous pensez vraiment qu'il peut se rallier à ce candidat de gauche? Bah non.
Pas du tout.
Donc
ouais.
Ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon déjà fracture la candidature fédératrice cherchée par Jadot. Et ensuite, il va falloir quand même. Il a beaucoup de travail. Il a un long chemin, Yannick Jadot. Il semble bien seul sur son chemin. Il dit quand même que Montebourg a dit non. Alors, est-ce que Montebourg veut y aller? On n'en sait rien. Taubira, qui est une figure symbolique pour la gauche, très porteuse, elle dit non aussi. Bon, autour de lui, il y a d'autres candidats potentiels, d'autres forces de gauche qui sont potentielles, mais qui n'ont pas une forte popularité, une grande notoriété. On le sait bien, dans la présidentielle, c'est ce qui compte avant tout.
Mais ce qui est intéressant dans son initiative, Frédéric Dabi, c'est qu'il veut élargir, donc au-delà de sa seule famille politique, Europe Écologie Les Verts, peut-être pour dépasser un certain nombre de polémiques. Vous parliez, nous parlions de celle de Poitiers hier, et c'est la suite d'une longue série. Est-ce que ça a du sens, au moins symboliquement déjà?
En tout cas, je pense que ça a du sens parce que Yannick Jadot a un allié, un acteur qu'on n'a pas encore cité depuis qu'on parle de ce sujet. Cet acteur, ce sont les sympathisants de gauche. C'est le peuple de gauche, comme on disait à une époque. Quand on les interroge dans des enquêtes qualitatives, ils ont largement intériorisé que le mur, si je puis dire, se rapproche. Qu'un troisième 21 avril est là. On n'est pas sur la surprise du 21 avril 2002. On n'est pas sur 2017 où beaucoup de gens de gauche ont dit « J'ai voté Macron, c'est peut-être un homme de gauche ». Bon, ils ont peut-être été déçus. En tout cas, ils voient l'échec arriver. Et il y a quand même une forte pression pour l'Union. Une enquête IFOP JDD d'il y a quelques semaines auprès de sympathisants de gauche montrait que trois quarts d'entre eux se positionnaient sur un scénario que j'appelle 1974. La gauche unie derrière François Mitterrand, bon, qui échoue de peu au second tour contre Giscard d'Estaing, mais une gauche unie, parce que c'est vrai, Aurélie, vous le rappeliez, quelles que soient les configurations, et dans une enquête récente, on a testé 11 scénarios de premier tour, c'est quand même beaucoup, aucun ne donnait un candidat de gauche en situation même de tangenter à 3-4 points le second tour. Bien sûr, à un an du vote, soyons extrêmement prudents, mais il y a aussi des divergences idéologiques. Il y a la véritable fracture sur la question républicaine, où il y a vraiment Anne Hidalgo face aux Insoumis et à Europe Écologie Les Verts dans leur ensemble. Il y a toute une série de fractures, de clivages, je dirais, qui empêchent l'union et puis l'ego des uns et des autres.
Ça veut dire qu'il n'y a plus de gauche irréconciliable, comme disait Manuel Valls, on a dépassé un peu ce dogme,
alors,
ce schisme, Aurélie Herbemont.
Manuel Valls, effectivement, parlait de deux gauches irréconciliables. En l'occurrence, il parlait de la sienne et puis du reste du Parti Socialiste et des Insoumis.
Ouais.
Bon, donc Manuel Valls, je ne sais pas s'il revendique encore pleinement d'être de gauche. C'est plutôt maintenant sur l'espace central. Mais donc, c'est vrai que, pour le coup, entre la gauche version Manuel Valls et la gauche Jean-Luc Mélenchon, oui, c'est irréconciliable.
Oui.
Après, entre la gauche qui n'a pas basculé du côté Macron, mais le problème, c'est toujours les égos. Frédéric Dabi disait très justement, il faut après se mettre d'accord sur le programme, se mettre d'accord sur un nom. C'est hallucinant pour la gauche comme chantier. Alors, ils ont réussi à se mettre tous d'accord dans les Hauts-de-France pour les régionales.
Oui.
Bon, il y a un exemple, du coup, dans une région. Et encore, ils n'ont même pas vraiment parlé du projet. Pour l'instant, ils se sont dit, bon, alors on se met derrière qui pour essayer d'aller trouver une place entre Xavier Bertrand et le Rassemblement National. Donc, c'est très compliqué. Et puis, ça pourrait à chaque fois pas se faire avec derrière n'importe qui. Par exemple, dans les Hauts-de-France, ils se sont dit, c'est derrière une écologiste, Karima Delic, c'est le plus simple. Parce que vous n'imaginez pas des insoumis derrière un socialiste, ni des socialistes derrière un insoumis. Donc, c'est
plus facile pour l'élection territoriale.
C'est très, très compliqué.
Mais est-ce que ça remet en question aussi et en cause, Laetitia Krupa, le système des primaires? Parce que jusqu'à présent, elles sont censées aujourd'hui départager les candidats dans chacune des familles politiques.
Oui, bien sûr, évidemment. D'ailleurs, il balaie un peu d'un revers de main, cette primaire voulue par Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, dans son interview aujourd'hui. Moi, je vais vous dire, je suis peut-être un peu naïve ou idéaliste, mais je crois que 2022 sera vraiment la rencontre du peuple et d'un homme et d'une femme. Et donc, il faudrait qu'à gauche, ils aient vraiment une idée d'incarnation, de génie. Et ça pourrait passer. Voilà. Je vous le dis, je pense vraiment, je crois que si on a l'idée de génie du candidat idéal, fédérateur, qui incarne le mieux le camp de la gauche.
Vous avez un nom, Laetitia?
Ah, on veut des noms, Laetitia. C'est le hashtag on veut des noms. Oui,
on veut des noms.
Oui, c'est ça le problème, c'est qu'il faut le trouver. Donc, il y aura cette réunion dans les 15 jours.
Une première réunion préparatoire, et puis après, peut-être qu'ils acteront leurs désaccords irréconciliables ou ils continueront à faire des réunions jusqu'à l'automne.
Oui.
En voyant s'ils peuvent se mettre d'accord. Mais c'est un chemin semé d'embûches de trouver un candidat commun à toute la gauche.
Et pendant ce temps-là, l'écologie de nouveau intéresse et interpelle. Damien Abad, président des députés Les Républicains, le dit aujourd'hui aussi, l'écologie doit être une priorité pour la droite. Ce combat se fera aussi en ces termes, pour terminer en quelques
secondes. Oui, c'est vrai qu'on avait fait une enquête pour Les Républicains au mois de septembre pour leur journée parlementaire, et on avait vu que l'écologie pour le peuple de droite, c'était pas une terre inconnue, hein, c'était quelque chose qui les concernait, y compris la méta-écologie du réchauffement climatique. Là aussi, c'est une victoire d'Europe Écologie Les Verts, mais dont ils n'ont absolument pas profité.
Merci beaucoup, Charles Grandois, Frédéric Dabi pour l'IFOP, Aurélie Herbemont pour Europe 1 et Laetitia Acrepa, journaliste politique. Merci à tous les trois pour ce débat nourri en ce dimanche soir. On se retrouve pour l'info avec vous, Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Car il est 19h au carillon d'Europe 1.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.